Donc vous retrouvez un petit peu la diapo qui nous a servi tous ces derniers jours où on a parlé de la paix. Alors on a tout le plan de salut. C'est le grand privilège que nous avons, nous autres chrétiens. Le monde séculier, lui, il ignore la création, il ignore le problème du péché, et donc il n'a pas ce qu'il faut en main pour vraiment aborder les sujets qui touchent la profondeur de la nature humaine, sa dimension spirituelle notamment. Et puis l'islam dans le judaïsme, il manque Jésus-Christ. Et donc, il manque l'accomplissement de la rédemption. Et donc, le privilège des chrétiens, c'est d'avoir Jésus. On avait vu que le problème de la chute, c'est que ça a apporté un conflit entre l'homme et Dieu, une rupture de relation de paix entre l'homme et Dieu. À l'intérieur de notre nature humaine, il y a la honte qui est arrivée, il y a des problèmes d'acceptation de qui on est, de ce qu'on est. Avec autrui également, des conflits qu'il y a les hommes les uns avec les autres, et également des problèmes avec la nature qui a dû être maudite à cause de l'homme. Il était devenu pécheur, il lui était quelque part impossible de vivre dans une nature qui serait parfaite et lui qui serait là comme absolument enfin, on peut imaginer un trop grand décalage si on habitait au milieu d'une nature parfaite. Et donc, il y a une rupture également avec cela. On a vu la dernière fois ensemble l'importance d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir faire la paix avec Dieu, d'arrêter d'être en conflit avec lui, parce qu'il y a un jour où il y aura le jugement, la colère de Dieu qui va venir, parce que c'est un Dieu juste, c'est aussi un Dieu qui fait grâce. Et donc aujourd'hui, on est dans le temps de l'Église où la porte de la grâce est ouverte et où quiconque croit en Jésus peut avoir l'assurance de la vie éternelle par le pardon de ses péchés, par les souffrances du Fils de Dieu, la façon dont il a porté nos fautes à la croix. Et le sujet du jour, donc on va voir on est réconcilié avec Dieu, mais des fois on perd cette paix, cette joie, cette sérénité intérieure, tout chrétien que l'on est. Et donc, on va parler de cela ensemble aujourd'hui. Et pour cela, on va aller chercher dans l'Épître aux Philippiens, un passage que beaucoup d'entre nous aimons beaucoup. Philippiens chapitre 4, le verset 2 au verset 9. Philippiens 4, verset 2 au verset 9. Alors, l'attente que vous cherchez, l'église de Philippe, ce que nous rapportent les Écritures, c'est qu'il y avait beaucoup de bonnes choses dans cette église, à l'église de Macédoine, beaucoup de bonnes choses. On se fait du souci pour l'apôtre Paul, qui est le fondateur de l'église. Il est emprisonné à Rome, on ne l'oublie pas. Un envoyé, Epaphrodite, a été envoyé depuis Philippe, 40 jours de voyage, pour aller jusqu'à Rome, pour lui porter un soutien, pour lui porter des nouvelles et pour prendre de ses nouvelles. C'est une église qui a de la maturité également. Elle a compris très tôt la nécessité de l'évangélisation et que l'évangélisation nécessitait des dons, que ça nécessitait des fonds, que Paul, quand il est dans une ville pour fonder une église, il a besoin de manger, il a besoin de vivre et ses chrétiens se cotisaient pour l'aider, pour subvenir aux besoins. C'était une église mature. Elle avait également compris qu'il était important d'aider ses frères et sœurs qui sont nécessiteux, et ils s'étaient joints avec enthousiasme à la collecte qui avait été organisée par Paul pour l'église de Jérusalem. Et il n'y a pas de problème de doctrine majeure non plus dans cette église, quoique Paul encourage toujours à la vigilance de ce côté-là. Non, l'église de Philippe donne beaucoup de joie à l'apôtre Paul. Beaucoup de bonnes choses, mais quand on lit l'épître, il y a quand même des difficultés. On sent qu'il y a une lassitude et un certain relâchement qui se sont installés. Paul est en prison à Rome, il est loin. Et voilà, il y a des divergences d'opinions qui sont apparues également dans l'Église, voire même peut-être des différends entre personnes. Bref, l'Église a perdu sa joie, le moral n'est pas bon, comme on pourrait le dire ainsi. Alors, nous allons lire maintenant le verset 2 au verset 9. J'exhorte et vous dis, j'exhorte Saint-Tychus, à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Une belle promesse pour les Philippiens et pour vous. Le Dieu de paix sera avec vous. Paul donne des encouragements personnels ici au verset 2. Bon, il va direct, hein, il cite le nom des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, exhorter, encourager, ce mot-là, il signifie prendre à côté de soi. Et donc on peut imaginer que Paul, il veut encourager personnellement Évodie. Il veut les encourager personnellement Saint-Tychus. Et il leur dit d'avoir les mêmes sentiments dans le Seigneur. Ayez un même sentiment. Ayez un même sentiment. Un même sentiment, on le voit traduit différemment, un même désir, une même pensée, une même conception des choses. Bref, Paul leur demande qu'elles soient du même avis. Et au chapitre 2 de cet épître, il avait demandé également cela pour toute l'Église. Ayez un même sentiment dans le Seigneur. Et ce petit mot, dans le Seigneur, fait toute la différence. Au chapitre 2, il avait aussi encouragé l'Église à avoir, ayez en vous les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Il est allé à la croix pour notre salut. Il s'est humilié lui-même, et il demande à avoir les mêmes sentiments et que ces sentiments-là soient ceux de Jésus-Christ. L'expression « dans le Seigneur » signifie, je le pense, que notre identité d'enfant de Dieu, avec tous ses immenses privilèges, avec tous ses devoirs aussi, cette identité d'enfant de Dieu doit passer avant notre mode de fonctionnement d'humain, basique, je dirais, qui fonctionne comme s'ils n'avaient pas en eux l'Esprit de Dieu. Dans le Seigneur, c'est différemment. Et Paul demande à ces deux sœurs, ces deux dames, qu'elles soient unies, qu'elles s'accordent dans le Seigneur, en prenant la fin, comme il y a du podcast qui dit ça, prendre la fin comme point de commencement. En Christ, nous sommes unis. Étant unis en Christ, maintenant, comment on fait avec les petits problèmes que nous avons entre nous, qui ne sont rien à côté de ce que nous partageons. Ayez un même sentiment dans le Seigneur. Les personnes qui ont perdu la paix ont besoin d'aide. Toi, fidèle collègue, aide-les. Paul ne nomme personne ici, mais il y avait dû y avoir dans l'église de Philippe quelqu'un qui a dû se sentir visé, que c'était à lui de faire ça. Les personnes qui ont perdu la paix ont besoin de les aider. Et Paul plaide aussi la redevabilité. Elles ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément, avec les autres. Et pour le dire différemment, on n'abandonne pas un soldat blessé sur le champ de bataille. On n'abandonne pas un soldat blessé sur le champ de bataille. C'est une responsabilité collective que de travailler, que de s'assurer que il y a la paix dans l'Église. Il y a la paix pour chacun dans l'Église, que chacun a jouit de cette paix dans le Seigneur Jésus-Christ. Les personnes qui ont perdu la paix ont besoin d'aide. Et là, il y a des premières applications qui surgissent. Peut-être nous avons besoin de recevoir ce matin, de la part du Seigneur, une exhortation, un encouragement à retrouver la paix, à retrouver cette paix perdue. Nous sommes tous concernés par la perte de la paix. Et si nous sommes nous-mêmes en paix et que nous constatons qu'un frère, qu'une sœur a perdu visiblement cette paix, ah ben, c'est aussi notre problème à nous. Ce n'est pas qu'il se débrouille, c'est aussi notre problème à nous. On est là tous pour s'aider. On n'abandonne personne. On doit viser l'unité et la paix dans le Seigneur pour toute l'Église. Alors, comment faire ? Les versets 4 et 5, nous lisons ceci, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, j'ai oublié le verset 4. Verset 4 et 5, excusez-moi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. J'avais d'ailleurs sauté un chapitre. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, une bonne raison d'être en tout temps joyeux et dans la paix. Une bonne raison pour cela, l'apôtre nous donne ici. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul n'encourage pas la méthode de couer et de la pensée positive, vous savez. C'est vrai que quand on est optimiste, ça procure de la joie. Voilà, voir la bouteille moitié pleine et moitié vide, il vaut mieux la voir moitié pleine que moitié vide, bien évidemment. Et on a ce beau chant qu'on chante régulièrement. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras. En adorant, combien le nombre en est grand. Et c'est vrai que parfois, on perd de vue tout ce que nous avons dans le Seigneur. Et les petites difficultés prennent des proportions qui sont beaucoup, beaucoup trop grandes. Pour autant, ce n'est pas la méthode de l'auto-persuasion. Paul ne vit pas sur son petit nuage en s'auto-persuadant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Regardez au chapitre 2, verset 27, ce qu'il a écrit dans cette même lettre. Philippiens 2, 27, il parle d'Épaphrodite qui a fait ce long voyage pour aller le voir et qui est tellement malade qu'il maintenant il désire rentrer. Il ne va pas rester servir l'apôtre comme c'était prévu. Il a été malade en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Paul était en prison. C'est pas joyeux d'être en prison. Et pourtant, Paul nous dit, réjouissez-vous. Il leur dit, réjouissez-vous. Il y a des raisons réelles d'être joyeux dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un mot-clé de tout notre passage ici. Dans le Seigneur. Si nous sommes dans la pensée de Christ, si nous vivons dans le royaume, les sujets de joie ne manqueront pas. Et l'apôtre ici en cite plusieurs au chapitre 1. Paul se réjouit que son emprisonnement fait que Christ est annoncé dans tout le prétoire, le palais de César. C'est l'Élysée actuelle, mais en version XXL. L'emprisonnement de Paul avait eu un effet surprenant, extraordinaire. Christ était annoncé dans le palais même de César. Au chapitre 2, Paul se réjouit de sa vie qui se consume parce que il voit que ça va servir à l'avancement dans la foi des Philippiens et ça ne le dérange pas. Au chapitre 4, il dit qu'il est content d'avoir appris à vivre dans la condition qu'il était. Il avait appris à vivre dans l'abondance de biens. Il avait appris à vivre dans le dénuement. Et là, à la prison, c'était un petit peu ce qui se passait pour lui. Il est content en toutes choses. Bref, à travers les lunettes de ce grand salut, en nous resituant dans ce plan de la rédemption, où nous avons une place, un rôle à jouer, nous sommes partie prenante de ce grand récit. Si on regarde les choses à travers ce grand récit, il y a de nombreux sujets d'être joyeux. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Pour le chrétien, la perspective du prochain retour de Jésus est la plus grande source de joie que l'on peut imaginer et qui est vraiment spécifique aux chrétiens. La pensée de voir Jésus est une pensée douce, la plus douce qui soit. Elle ne dépend d'aucune circonstance, elle ne dépend pas de notre vie intérieure, est-ce qu'on est en bonne santé, est-ce qu'on est dans quelle émotion on est, dans quel sentiment, dans quelle phase de réussite ou d'échec est notre vie. Elle ne dépend pas de notre vie intérieure, elle ne dépend pas de la situation non plus qui nous entoure. Cette joie que de savoir que le Seigneur est proche. Le retour de Jésus dépend de Dieu seul et Dieu tient toujours ses promesses. La Bible se termine par cette affirmation, dernier livre, dernier verset. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Je viens promptement, je viens à toute vitesse. Il y a une raison suprême d'être joyeux dans le Seigneur. Il y a aussi une raison suprême d'être paisible dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Il n'est pas loin, il n'est pas inaccessible. Il a promis d'être au milieu de son église, même la plus petite qui soit, même 2-3 personnes. Il a promis sa présence. Le Seigneur est là et il a dit, je suis avec vous tous les jours dans votre vie de témoin, Matthieu 28, 20. Et l'autre, c'était Matthieu 18, 20. La pensée que Jésus est là est une grande source de paix. Il sait ce qui se passe. Rien ne lui échappe de la situation et des circonstances que l'on travaille, comme de notre état intérieur. Il est le Tout-Puissant, il est au contrôle et il peut tout. Quel soulagement! En toutes circonstances, nous avons la possibilité de tourner nos regards vers lui, de fixer nos pensées sur lui en toutes circonstances. Rien ne nous en empêche. si ce n'est oublier de le faire. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. On aime bien chanter ce chant dans l'Église. Le mot douceur recouvre l'idée de modération, d'indulgence, de faiseur de paix. La pensée de proximité du Seigneur provoque un profond apaisement dans toutes les détresses et nous rend pacifiques, nous rend inoffensifs pour nous-mêmes et pour notre chrétien. Cela fait de nous des personnes pacifiées. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas seulement à la maison, ce n'est pas seulement à l'église que la paix et la joie doivent être les nôtres. C'est en tout lieu et en toutes circonstances. Notre douceur authentique, notre joie profonde, notre état d'être humain pacifié, c'est un puissant moyen d'évangélisation. C'est un puissant moyen d'évangélisation. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vivons une pleine paix, vivons une pleine joie en tout lieu et en tout temps dans le Seigneur. Alors les applications, connaissons-nous maintenant la paix et la joie dans le Seigneur? Est-ce qu'on le connaît maintenant? Tous ces derniers jours, moi j'ai lutter à la maison avec des travaux. J'ai commencé des travaux, mais ça me prend la tête. J'y arrive pas, je fais ceci, je fais cela, je calcule un truc, et puis ça va pas, c'est pas comme j'avais prévu. Et puis encore, il faut acheter ça, et puis... j'avance pas, je mets 3 fois plus de temps que ce que j'avais prévu. J'ai eu l'occasion de mettre en pratique le message dont je suis en train de parler ce matin. Croyez-moi. Combien de temps y a-t-il que je n'ai pas médité sur le retour du Seigneur? Médité sur le fait qu'il est présent au milieu de nous. Pensez du temps. Oui, on le sait, d'accord. Mais pensez du temps à réfléchir à tout ça, à nous en souvenir, à le méditer. On peut le faire maintenant. Maintenant, il est possible de retrouver la joie et la tranquillité du cœur. Maintenant. Et s'il y a quelques problèmes, quelques fautes, quelques péchés qui ont été commis, on peut bien évidemment les apporter au Seigneur. Versets 6 et 7. Un bon moyen d'avoir la paix intérieure. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tout confier à Dieu dans la prière. On parle beaucoup de la prière, et on va encore, je pense, en parler encore beaucoup dans notre Église. Garder nos cœurs et nos pensées, c'est un petit peu l'objectif visé, c'est un petit peu la clé. Avoir nos cœurs et nos pensées, les pensées, ça comprend toute notre dimension intellectuelle, tournée vers Jésus-Christ. Voilà l'état de paix intérieure que les hommes cherchent avec tant d'empressement. Aimer Jésus, le chanter, lui donner toujours la première place dans nos cœurs et dans notre vie. Penser à lui, à ce qui le concerne, méditer sur ses perfections, à ce qu'il est, à ce qu'il a fait. Et ne pas se prendre la tête pour des choses où il a le contrôle. Garder nos peurs, nos cœurs et nos pensées, c'est en Jésus, c'est l'objectif. Verset 7 nous parle du shalom de Dieu et la paix de Dieu qui surpassera toute intelligence. Dieu peut nous donner la vraie paix. Dieu peut nous donner la vraie paix. Je ne connais pas grand-chose, mais l'hindouisme et le bouddhisme, ils prétendent aussi procurer la paix parfaite. Les stupéfiants, ils ont aussi la prétention de nous donner de la paix dans nos circonstances. On a aussi peut-être une idole secrète que l'on va, vers laquelle on va lorsque tout va mal, pour retrouver la paix et le calme. Et notre jardin secret est aussi un refuge de paix. Toutes ces méthodes, ces lieux, c'est pour avoir la paix, consistent à s'extraire de son environnement. Celui qui nous contraint, celui qui nous fait souffrir, on veut sortir de là, on veut l'oublier, on va le mettre de côté, on veut s'en couper, s'en séparer. Toutes ces méthodes ont ce point-là en commun. Mais la paix que Dieu donne est différente, car elle ne dépend absolument pas de nos circonstances. Elle ne dépend pas de nos circonstances. Paul dit qu'elle surpasse toute expérience humaine qui peut être vécue ici-bas. La paix de Dieu, le shalom de Dieu, surpasse toute intelligence, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut concevoir, tout ce qu'on peut imaginer relatif à la paix de Dieu est plus grande que cela. Alors, il faut trouver la paix de Dieu. Et le verset 6, Dieu, Paul, nous ramène à la prière. Trouvez la paix de Dieu par la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu donc gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il ne s'agit pas de faire comme si les problèmes et les difficultés n'étaient pas là. Il ne s'agit pas de faire comme si tous nos besoins étaient comblés alors qu'ils ne le sont pas. Il ne s'agit pas de mettre un masque, le masque de tout va bien, alors que tout va mal. Il ne s'agit pas de cela. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, prenez mon joug sur vous, ayez foi en moi, et laissez-moi vos inquiétudes, occupez-vous de ce qui me concerne, moi, et vous verrez, ce sera léger. Peut-être que tout va bien, sauf que pour les petites choses, ça, je suis capable de gérer tout seul. Connaissez l'expression, moi je l'emploie souvent. Ah, ça, c'est pas un souci. Hein. Sous-entendu, je gère, je sais faire, j'ai pas besoin de Dieu. Hein. J'ai pas besoin de Dieu pour ça, et j'ai pas besoin de sa paix non plus. Paul dit, en toute chose, demandez à Dieu. Même les petites choses qu'on croit savoir faire nous-mêmes, tout seul, au contraire, les présenter également à Dieu pour rester dans sa paix, les faire avec lui, ces petites choses, et pas tout seul. En toute chose, demander à Dieu. Et Paul souligne aussi la nécessité de dire un sincère merci. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui donne, sans jamais reconnaître la bonté et la quantité de choses qu'il nous a déjà données. Remercier Dieu, ne serait-ce que pour tout ce que nous avons en lui, conduit à la joie. Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en les mettant comment, devant tes yeux, combien le nombre en est grand. Remercier Dieu. Alors, mon problème dans les applications est que je me laisse écraser par les soucis. Je suis toujours la tête dans le guidon. Ça, c'est mon problème. Mon problème est que je vais chercher le secours ailleurs. Jérémie, au début de son ministère, Dieu lui fait exprimer de façon tellement visuelle. Hein. Abandonner la source d'eau vive pour se creuser des citernes qui ne tiennent pas l'eau. Ça, c'est souvent mon expérience. J'abandonne pour aller faire moi-même, creuser mes propres citernes, mais ces citernes, abandonner la source d'eau pour aller se creuser une citerne, aller chercher, boire l'eau d'une citerne, une citerne qui ne retient même pas l'eau de pluie. Vous avez, il dit ça à son peuple, hein, le prophète Jérémie. Mon problème est que je pense pouvoir me débrouiller des petites choses, que je ne demande pas l'aide du Seigneur pour les petites choses. Et mon problème est que je ne dis jamais merci, et ne disant jamais merci, je ne suis jamais content. La prière. La prière. L'apôtre Paul continue avec deux conseils de plus par rapport à la paix. Il y a deux bonus, deux extras. Verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, ce qui est juste, qui est pur, qui est aimable, qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien surveiller ses pensées. Paul a dressé ici une liste de pensées positives. Mais vous avez remarqué, il n'a pas mis son vis-à-vis toutes les pensées négatives qu'on pourrait avoir, justement, pour ne pas les avoir. À mon travail, il y a un sujet de conversation prisé, c'est de, voilà, d'échanger en confidence ce qui ne va pas, hein, ou ce qui pourrait ne pas aller, ou les drames potentiels qui pourraient arriver. Hein, quelqu'un a une information, alors voilà, il la partage. Ah mais tu sais que, ta, 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 ah mais tu sais que ce client, ah mais tu sais que, et voilà. Et ça laisse chaque fois envisager le pire, ou ah tel chef, tu sais que, et c'est très toxique, et cela plombe l'ambiance du travail, je dois dire. Ça c'est à mon travail. Mais entre chrétiens, on peut tomber aussi dans la même chose, assez facilement. Parce que des fois, on se laisse à trop regarder ce qui se passe dans le monde. Et là, on voit des choses qui vont pas. Et voilà, il y a telle chose. Et voilà, il y a telle loi. Et voilà, il y a telle chose qui se passe. Et telle prophétie qui s'accomplit. Et chaque fois, cela nous conduit à une situation où on perd la joie, on est plus joyeux. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de vivre dans un monde, d'être en dehors du monde. On est dans le monde et ce qui concerne le monde nous concerne, mais dans les choses qui sont négatives, les pensées qui sont négatives, il ne faut pas rester là-dedans. Il ne faut pas que ce soit des pensées que l'on fréquente. Au contraire, s'attacher à chercher ce qui est vrai, s'attacher à chercher ce qui est honorable. Et les choses bonnes, on peut les dire quand il y a quelque chose qui est juste également, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Où que ce soit, et même dans notre monde déchu, il peut y avoir des choses qui sont bonnes, et on peut le dire. Ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et le Dieu de paix sera avec vous. Bien surveiller ses pensées. Qu'est-ce que je fais avec mes pensées? À quoi je les utilise? À quoi je les utilise? Rester dans des pensées positives et ne pas stationner dans les pensées négatives. Elles sont bien à cela. Les pensées négatives sont des tueuses de joie, tout simplement. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Profitez de l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Ça paraît tout bête, mais c'est là à notre disposition. Nous avons vu nos aînés pratiquer des disciplines spirituelles. On parle de la prière. Ça en est une. Pratiquer des disciplines spirituelles et constater les bons fruits qu'il y avait dans leur vie. Dieu bénit l'imitation des choses qui sont bonnes. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu, pratiquez-le. Faites ce que vous m'avez vu faire, dit l'apôtre Paul. Et un petit peu plus haut, dans son épître, il dit que on est appelés tous à imiter Jésus-Christ à travers l'imitation de Paul. C'est l'imitation de Jésus-Christ, en fait, qu'il y a derrière. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, voilà un encouragement à retrouver la paix et la joie intérieure et à la garder précieusement. Alors, on a, je pense, largement le temps de prendre 5 minutes et après on pourra peut-être, si vous avez un chant pour terminer, il y a plein de chants qui sont relatifs à ce dont nous voulons de parler. On peut avoir un petit moment de prière, de recueillement sur les sujets de veiller sur notre paix et notre joie personnelle. Veiller sur notre paix et notre joie communautaire. Nous souvenir du retour prochain de Jésus-Christ. Nous le verrons tel qu'il est, a dit l'apôtre Jean dans sa dernière lettre. Avoir, prendre des résolutions également en ce qui concerne les disciplines, en ce qui concerne la façon dont on utilise nos pensées, en ce qui concerne les modèles vers lesquels on veut se tourner parce que, quoi qu'il en soit, on est toujours plus ou moins en train d'imiter ou de suivre quelqu'un ou quelque chose. Suivons le Seigneur. Amen. Oui.